Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Procès aujourd'hui aux Pays-Bas sur le crash du vol MH17 et ses 298 victimes. Des années d'enquête internationale ont établi que c'est un missile Buk de fabrication russe qui a détruit l'appareil au-dessus de l'Ukraine en 2014. Les quatre accusés, trois Russes et un Ukrainien absent, seront jugés par contumace. Antoine Moutot, notre correspondant aux Pays-Bas, est allé rencontrer des familles des victimes, soulagées d'avoir enfin des éléments de réponse.
Dans leur petite maison de Prince Alexander, un quartier de la banlieue de Rotterdam, Silène et Rob Frederik se préparent dans la douleur à l'ouverture du procès. Il y a près de 6 ans, leur fils Bryce et sa petite amie ont perdu la vie dans l'explosion du MH17.
Ils avaient ces billets pour Bali. Le matin, je leur ai encore dit au revoir. Je les ai serrés dans mes bras et je leur ai demandé de laisser leurs soucis ici. Ils sont partis et puis... quelques heures plus tard, ils ont disparu, abattus dans le ciel, assassinés au-dessus de l'Ukraine.
Le 17
juillet 2014, Bryce et Daisy se trouvaient à bord du vol 17 de la Malaysia Airlines avec 296 personnes à bord. Un vol Amsterdam-Kuala Lumpur. Mais lorsque l'avion traverse l'Ukraine, vers 16h15 heure néerlandaise, il disparaît subitement des radars. Le pilote était en communication avec le contrôle aérien de Rostov sur le Don en Russie voisine. Très vite, la nouvelle parvient aux Pays-Bas.
Bonjour, vous regardez un flash spécial avec une nouvelle en provenance de Russie. L'agence de presse russe Interfax rapporte qu'un avion de ligne s'est écrasé dans la zone frontalière entre la Russie et l'Ukraine. Il s'agit d'un avion de la Malaysia Airlines parti ce midi d'Amsterdam.
L'épave du Boeing est retrouvée un peu plus tard au milieu d'un champ près de Chaktarsk dans l'oblast de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, en plein conflit armé. Il n'y a aucun survivant, la grande majorité des victimes sont néerlandaises, mais aussi des Malaisiens, des Australiens et des Indonésiens. Selon une enquête internationale rendue publique des années plus tard, l'appareil a été détruit par un missile Buk de fabrication russe, tiré dans la région par une unité indépendantiste pro-russe. En raison du conflit sur place entre les séparatistes et l'Ukraine, les dépouilles resteront bloquées sur place pendant plusieurs jours. Un cauchemar pour tous les proches de victimes comme Silène et Rob Frederiks.
Au début, on avait l'impression d'être dans un film. On s'est retrouvés en plein conflit géopolitique, entraînés malgré nous au milieu d'une guerre.
Ce sont des innocents qui se sont envolés vers une guerre. Mais leurs proches, eux, ont pris perpète. Plus d'avenir. Tout s'en est allé.
Aujourd'hui, Rob et Silène n'ont plus qu'un seul souhait.
Nous voulons la justice, pour nous, mais aussi pour eux. C'est la dernière chose que nous pouvons faire pour eux.
Après près de 6 ans d'attente, ils se réjouissent donc de l'ouverture du procès aux Pays-Bas. Alors que Moscou nie toujours toute implication, l'affaire doit être jugée à partir de ce lundi dans un tribunal ultra sécurisé de Schiphol, non loin de l'endroit où l'avion a décollé. 4 suspects seront jugés par contumace car la Russie refuse de les extrader. Il s'agit de 3 ressortissants russes et un Ukrainien, un ministre de la Défense autoproclamé des séparatistes, un ancien membre des services de renseignement militaire russe, son adjoint Oleg Poutalov et l'Ukrainien Leonid Karchenko, chef d'un bataillon séparatiste.
Lorsqu'on a su l'an dernier, car il y avait une date pour le procès, ça a été un énorme soulagement pour nous. C'est vraiment triste quand on pense à toutes les obstructions côté russe. Sans ça, tout aurait été beaucoup moins long.
Pour Silène, peu importe si les suspects ne sont pas présents au procès, de toute façon, dit-elle, les véritables coupables sont bien plus haut placés.
Parfois, des gens nous disent que ça ne sert à rien s'ils ne sont pas présents, mais le procès doit bien avoir lieu. Un massacre a été perpétré, et puis il y a eu beaucoup de responsables. Mais au final, tout en haut de l'échelle, on retrouve le président Poutine. Il était au courant, ça c'est certain.
De son côté, la Russie estime que l'enquête a été menée de façon partiale. Il y a quelques mois, le ministre néerlandais de la Justice, Ferdinand Krapperhaus, a reçu une demande de Moscou pour laisser la Russie juger les suspects sur son propre sol. Une demande rejetée par les Pays-Bas. Selon La Haye, la justice néerlandaise est la mieux placée pour juger l'affaire. Jeroen van Weingarten est porte-parole MH17 pour le parti de droite libéral du Premier ministre Mark Rutte.
La plupart des victimes étaient de notre pays, étaient des Pays-Bas. Donc c'est logique que le processus a lieu ici. En plus, les Pays-Bas ont une vaste expérience au niveau d'organiser un grand processus international juridique, comme on a vu avec le Lockerbie, c'est il y a très longtemps, mais on a l'expérience à La Haye aussi avec le Tribunal international des Nations Unies.
La veille de l'ouverture du procès, dimanche à La Haye, les proches de victimes ont manifesté dans le silence. En signe de protestation, ils ont installé devant l'ambassade de Russie 298 chaises vides pour les 298 victimes du MH17.
Alors que partout en Europe, l'âge légal de départ à la retraite recule pour atteindre jusqu'à 67 ans dans certains pays, quid du travail des seniors? Les plus de 60 ans pourront-ils, peuvent-ils encore travailler? En France, seuls 30% des 60-64 ans sont toujours en activité, un des pires chiffres de l'OCDE où la moyenne est de 51,4%. Le gouvernement français se penche sur la question, mais certaines entreprises ont pris les devants, comme Assystem, un groupe d'ingénierie industrielle. Il accompagne ses clients pour gérer l'électricité et le nucléaire dans leurs infrastructures industrielles. Pour ses missions à l'étranger, le groupe, qui compte 5700 collaborateurs, dispose d'une petite équipe spéciale de seniors. Ils se sont appelés les Space Cowboys, comme dans le film de Clint Eastwood. C'est le reportage de Juliette Rangeval.
Space Cowboy, c'est assez rigolo comme nom, hein. Mais ça fait une identification qui est importante à la fois pour les gens qui sont dans l'équipe, mais aussi pour l'extérieur. C'est-à-dire que si on avait appelé ça les experts du cinquième étage, on n'aurait pas le succès qu'on a aujourd'hui. Hein.
C'est Hubert Labourdette, vice-président des opérations stratégiques d'Assystem, qui est responsable de l'initiative. Il a constitué un groupe d'une vingtaine d'experts. Ils ont entre 46 et 67 ans. Ce sont d'anciens d'EDF ou d'Areva. Certains ont fait carrière dans l'armée. Ces Space Cowboys sont envoyés à l'étranger sur des projets particulièrement complexes, loin des clichés sur les seniors.
Aujourd'hui, on ne saurait pas faire notre business à l'export, au moins au départ, sans les Space Cowboys. C'est-à-dire qu'on a transformé en fait la population de seniors comme une vraie valeur ajoutée. Valeur ajoutée dans l'exécution des projets et valeur ajoutée dans le développement commercial. Hein, on voit souvent les seniors plutôt comme un poids dans l'entreprise. Non, les seniors sont une valeur ajoutée. Il suffit de bien les mettre en situation et de bien les utiliser.
La moyenne d'âge chez Assystem, c'est 38 ans et demi. Une grande partie des collaborateurs est embauchée dès sa sortie d'école d'ingénieur. La salle de repos avec ses fauteuils lounge et son baby-foot semble plus adaptée aux millennials qu'aux têtes grises. Ouais. Mais cela laisse Jean-Loup Frichet assez indifférent. Ça fait 5 ans maintenant qu'il a rejoint les Space Cowboys. À 62 ans, il a fait toute sa carrière dans l'industrie nucléaire. Et 62 ans, ce n'est pas trop vieux pour intervenir sur des projets très techniques.
Le fait d'avoir cet âge et cette expérience, ça permet d'avoir une vision un peu plus élevée des challenges et des problèmes qu'on a à affronter. La technique, s'il y a vraiment des spécificités de technique, on peut la confier à des plus jeunes. C'est, je crois, une évolution de carrière naturelle. Mais non, au contraire, c'est un avantage.
Ces ingénieurs, très aguerris, très spécialisés, que viennent-ils chercher dans ce type de mission?
J'ai été un chef de service de 80 personnes dans le public. J'ai été chef de représentation en Ukraine, à Kiev, pendant 6 ans, avec du personnel français, allemand et ukrainien. Mais non, ce n'est pas pour moi le principal de la motivation dans l'objet de mes missions.
C'est quoi le principal?
S'amuser. Comme on dit un peu vulgairement, il y a des gens qui ont les deux pieds dans le même sabot. Moi, ça n'a jamais été mon cas. J'ai toujours été attiré par des challenges extérieurs, des choses un peu plus amusantes qu'un certain standard de carrière. Donc, je crois que ça dépend vraiment de la nature de chacun.
L'expérience et la capacité à gérer la pression ou un client difficile, c'est cela qu'Hubert Labourdette recherche.
À partir du moment où vous commencez à sauver les situations parce que la situation est difficile et qu'il y a besoin de quelqu'un le lendemain, la population des seniors, en fait, a quelque chose de très intéressant. Ce sont des gens qui, au niveau familial, souvent, ont fini d'éduquer leurs enfants. Leurs enfants sont partis. Et donc, ils ont un niveau de disponibilité qui est, en fait, beaucoup plus grand que la tranche inférieure. Et donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont disponibles pour partir à l'autre bout de la France ou à l'étranger. Et cela, assez rapidement. Donc, ça présente quand même un intérêt et puis une capacité d'adaptation, bien sûr, une sérénité, des points fixes, en fait, quelque part, hein, dans des projets qui sont très, très intéressants, qui sont vraiment propres à cette tranche d'âge.
Un système idéal pour des experts passionnés par leur métier et qui peuvent même continuer après avoir pris officiellement leur retraite. C'est en tout cas ce qu'envisage Jean-Loup Frichet.
Un de nos collègues Space Cowboys a pris sa retraite à 62 ans il y a quelques mois. Mais il a à peine pris sa retraite qu'il fait déjà du consulting pour la maison sur un projet particulier. Ce que je voulais souligner, c'est que beaucoup de gens, et c'est aussi mon projet, c'est le jour où je serai en retraite, que ce soit à 65, 6 ou 7. Et si l'envie est toujours là, je continuerai à travailler à mi-temps ou plein temps, ou quel que soit l'aménagement, vraisemblablement sur des projets sur lesquels je peux apporter quelque chose.
Mettre en avant l'expérience plutôt que l'âge, c'est l'une des pistes privilégiées dans le rapport remis le mois dernier au gouvernement français pour favoriser l'emploi des seniors en entreprise.
Et au Royaume-Uni, l'âge de la retraite qui est de 65 ans passera à 67 ans en 2028. Les travailleurs seniors vont donc théoriquement devenir de plus en plus nombreux, d'autant qu'avec le Brexit, la main-d'œuvre européenne ne va plus compenser aussi facilement les carences nationales. Aujourd'hui, 11% des plus de 65 ans sont toujours actifs, une catégorie qui, selon plusieurs études économiques, devrait représenter la moitié de la croissance d'emploi d'ici 10 ans. Le monde du travail s'y prépare donc déjà. C'est le reportage de Marie Billon.
La jeune génération au service des plus âgés dans les bureaux londoniens de l'organisation Aging Better. La plupart des employés ont clairement moins de 50 ans. Mais leur but au quotidien est de rendre le monde du travail plus ouvert aux travailleurs seniors. Georgia Elander fait partie de cette équipe. Avec le Brexit, dit-elle, il est encore plus urgent de faire évoluer les mentalités.
Le gouvernement a récemment annoncé un nouveau système d'immigration qui rendra plus difficile la venue de travailleurs non qualifiés. Certains secteurs, comme le bâtiment, l'hôtellerie, les soins à la personne auront beaucoup de mal à recruter. Alors ils vont devoir réfléchir à la manière de conserver leur main-d'œuvre. Ça veut dire s'adapter aux travailleurs âgés.
Aging Better travaille notamment avec une grande entreprise de recrutement dans l'hôtellerie, mais les progrès sont lents dans le pays.
Puisqu'on vit plus longtemps, il faut une retraite plus importante. Les personnes qui ont perçu de bas salaires devront potentiellement travailler plus longtemps. Mais souvent, les plus pauvres ont aussi une mauvaise santé. Dans certaines régions, on voit beaucoup de gens développer des problèmes de santé dès la cinquantaine, alors que ce sont ceux qui devront travailler jusqu'à 60, 70 ans, malgré une santé fragile. Et pour l'instant, le monde du travail n'a ni les stratégies, ni les solutions pour s'adapter à cet état de fait.
Outre les sociétés de recrutement, Aging Better collabore aussi avec des entreprises, des autorités locales et le ministère du Travail et des Retraites pour aider les employeurs à s'ajuster au vieillissement de la population. Parce que le problème ne se limite pas au a priori lors des entretiens d'embauche.
Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Aujourd'hui, la plupart des employeurs n'offrent aucune flexibilité, ce qui est pourtant crucial pour les travailleurs âgés à cause de leur état physique ou parce qu'ils s'occupent d'un parent ou d'un partenaire en mauvaise santé. Pour certains, pouvoir commencer plus tard ou finir plus tôt, c'est ce qui fait la différence entre accepter un emploi ou pas.
Et puis, il y a aussi la question de l'évolution de la carrière, de l'adaptation aux nouvelles exigences de l'entreprise. Et là encore, les travailleurs âgés sont pénalisés.
En termes de formation, au sein de l'entreprise, nous avons l'un des taux les plus bas des pays de l'OCDE. De même pour les promotions et l'évolution de la carrière. Les employés âgés ne sont pas sélectionnés ou ne posent même pas leur candidature parce qu'ils ne se sentent pas assez appréciés ou remarqués.
Alors la solution pour certains, c'est de créer leur propre entreprise. Ce n'est pas sans inconvénient, précise Georgia, notamment concernant les cotisations pour la retraite. Mais certains se sentent contraints à se mettre à leur compte. Les plus de 50 ans représentent près de la moitié des auto-entrepreneurs du Royaume-Uni. Mais certains font ce choix sans y être poussé. C'est le cas de Suzy, 74 ans. Nous lui avons parlé à distance depuis ses bureaux du sud de l'Angleterre car elle se préparait à partir aux États-Unis pour une conférence internationale sur les produits bio. Alors consultante en management, Suzy a formé The Yes Yes Company avec l'une de ses meilleures amies, Sarah, en 2003. Ensemble, elles ont créé un lubrifiant féminin.
Sarah travaillait dans le secteur pharmaceutique quand l'entreprise Pfizer a commercialisé le Viagra. Et quand les hommes ont eu accès à une virilité renouvelée, le corps des femmes ne pouvait pas suivre. Des maris ont quitté leurs femmes et leurs familles pour des femmes plus jeunes.
Ayant identifié un manque sur le marché, elles se sont lancées dans l'aventure. Sarah avait alors 46 ans, Suzy 58. Elles disent n'avoir rencontré aucun obstacle à cause de leurs âges en créant leur entreprise.
J'ai 75 ans ce mois-ci et je sais que beaucoup de gens de mon âge sont heureux d'être à la retraite, mais je ne joue pas au golf, j'ai toujours l'esprit d'aventure, je suis en bonne forme physique, mon cerveau est agile, j'adore mon équipe. Ça fait beaucoup de bien d'avoir un but. Savoir que nos produits améliorent la vie des gens, c'est gratifiant et c'est stimulant. Je ne travaille plus à temps plein, mais je ne sais pas si je prendrai vraiment ma retraite un jour. Je mettrai certainement mon énergie au profit de quelque chose d'autre, peut-être un autre business ou une association.
Le volontariat est en effet un choix que beaucoup de retraités font. C'est le cas de Derek Prime. Il a aujourd'hui 75 ans et est à la retraite depuis 11 ans. Mais il aime passer ses journées à l'ombre du château de Windsor. Derek était manager adjoint de la boutique de souvenirs Kings & Queens pendant 28 ans. Alors, lors des grandes occasions, ou parfois simplement parce que la reine est en résidence, il reprend du service.
Je fais du travail volontaire parce que j'ai toutes les infos dans la tête. Alors autant s'en servir plutôt que de rester à la maison à me morfondre. Je me rends utile et je rencontre du monde.
Derek bondit d'un client à l'autre, d'une étagère à l'autre, attrapant une tasse montrant les jolis minois de Katie Williams et puis un torchon à l'effigie de la reine. C'est un travail physique, la vie n'est pas de tout repos. Même s'il n'est pas payé, le manager le sollicite et le rappelle à l'ordre s'il prend trop de temps à discuter. Mais pour Derek, pas question de raccrocher son tablier.
Ah, je serai toujours là, my dear, même si c'est empaillé ou avec ma tête plantée sur un poteau.
Et en Slovénie, ce petit pays à la frontière des Balkans, le gouvernement a décidé de réformer son droit du travail pour favoriser l'activité des seniors, très attendue pour soutenir la croissance. Les explications de Simon Bricot.
À l'automne 2019, la Slovénie a adopté une réforme des retraites qui se résume à deux volets principaux. L'harmonisation entre hommes et femmes, mais aussi l'incitation à travailler plus que les 40 annuités requises pour toucher une pension à taux plein. De fait, le nouveau texte met en place plusieurs mesures d'incitation pour les seniors. Chaque année, travailler au-delà des 40 annuités entraînera une surcote de 3%. Mais ce n'est pas tout. Pendant les trois premières années, ces salariés percevront 40% de leur pension en plus de leur salaire, et les courageux qui continueront une quatrième année et plus verront leur salaire bonifié d'un équivalent à 20% de leur pension. Ces encouragements, décidés par l'ancien gouvernement libéral de Marianne Charetz, qui a chuté à la fin du mois de janvier pour être remplacé par la droite dure, interviennent alors que la Slovénie fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Après la crise des crédits toxiques qui l'avait mené au bord de la faillite au début des années 2010, le petit pays se retrouve aujourd'hui en situation de quasi plein emploi, et pour soutenir la croissance, le gouvernement a donc décidé de mettre à contribution les travailleurs seniors, d'autant que la population nationale est vieillissante, le taux de natalité au plus bas et l'émigration des forces vives élevée. Dans une Slovénie marquée par la montée en puissance de l'islamophobie, pas question pour les autorités d'ouvrir le marché du travail aux nombreux migrants qui traversent chaque année le pays, situé à l'extrémité ouest de la route des Balkans.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Sophie Janin. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. Demain, dans Accent d'Europe, reportage sur le Brexit et les éleveurs de bœufs irlandais qui s'inquiètent pour leurs exportations à destination du Royaume-Uni. À demain.
RFI.